Radio France Internationale, 5h30 à Paris, les 4h30 à Libreville.
Nemo en piste.
Les électeurs gabonais appelés aux urnes ce samedi pour la présidentielle. Un peu plus de 900 000 personnes inscrites sur les listes électorales. On vous présente les 8 candidats. Brice Clotaire, Oligui Nguema et Alain-Claude Bilibinzé en tête. Le camp de déplacés de Zamzam, pris pour cible hier matin, c'est le plus grand du Darfour. Les paramilitaires soudanais sont pointés du doigt, qui semblent redoubler d'efforts pour achever la conquête de la région depuis la perte de Khartoum. Et puis, suis-je la prochaine ? L'un des slogans scandés dans le cortège d'une marche contre les violences sexistes et les féminicides en Afrique du Sud. Les chiffres sont alarmants et les manifestants appellent à reconnaître ces violences comme une catastrophe nationale. Jour J au Gabon, les électeurs désignent aujourd'hui celui ou celle qui dirigera le pays pour les 7 prochaines années. La campagne s'est refermée il y a quelques heures. Le ministère de l'Intérieur se félicitant de son bon déroulement, invitant dans le même temps les Gabonais à se rendre aux urnes dans le calme. À quelques heures maintenant de l'ouverture des bureaux de vote, on jette un œil à l'affiche du scrutin et au profil des 8 candidats en lice à Libreville. Yves-Laurent Goma.
Brice Clotaire Oligui Nguema a passé ses 2 semaines de campagne sur le terrain. C'est le seul qui a sillonné tout le pays et organisé des meetings géants, surnommé le bâtisseur ou le libérateur, le tombeur du régime des Bongo père et fils, a promis bâtir un Gabon digne d'envie. En face, Alain-Claude Bilibinzé, dernier premier ministre d'Ali Bongo. Parfait orateur, ses prises de parole ont marqué les esprits. Osons la rupture, c'est son slogan et projet de société. Dans la course, 2 anciens candidats à l'élection présidentielle de 2023. Thierry Yvan Nguema, dont le projet de société vise une réelle indépendance du Gabon vis-à-vis de la France, et Stophen Ibinga Ibinga, qui veut valoriser les petits métiers pour lutter contre le chômage. Une seule femme dans la course, Zenaba Ninga Chaning, femme d'affaires. Alain Simplice Bungwere, au cadre de l'administration, est l'unique candidat qui se présente au nom d'un parti. Sur la liste, il y a aussi le docteur Germain Stéphane Iloko, ancien porte-parole de l'ex-parti au pouvoir. Il y a enfin Joseph Laponce Essingone qui prône la fusion entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Ouverture des bureaux de vote à 7h, heure du Gabon, soit dans un peu plus de 2 heures. Un peu plus de 3000 bureaux de vote accueilleront les électeurs en cette journée déclarée fériée. On retrouve tout au long de cette journée électorale Yves-Laurent Goma, notre correspondant, ainsi que notre envoyé spécial François Mazet. De nouvelles frappes attribuées aux paramilitaires soudanais au Darfour, notamment alors que les combats autour d'El Fasher s'intensifient ces dernières semaines. La capitale du Darfour Nord, toujours aux mains de l'armée du général Al-Burhan, est toujours assiégée par les hommes du général Emeti qui ont pris pour cible un camp de déplacés à une 15aine de kilomètres de là. Alexandra Branjon.
C'est le camp de Zamzam, le plus important camp de déplacés de la région, avec environ 1,5 million de personnes, qui a été pris pour cible ce vendredi matin. Selon des témoins, les paramilitaires des forces de soutien rapide ont attaqué à bord de véhicules de combat tout en bombardant le camp. Au moins 25 personnes sont décédées, dont des femmes et des enfants. La veille, c'est le camp d'Abouchouk, à quelques kilomètres au nord d'El Fasher, qui a été bombardé, faisant au moins 15 morts. Depuis que les paramilitaires ont perdu le contrôle de la capitale Khartoum il y a 3 semaines, ils ont redoublé d'efforts pour achever la conquête du Darfour. El Fasher revêt un enjeu stratégique, c'est la dernière capitale de la région à être encore aux mains de l'armée. Si les FSR s'en emparent, ils contrôleront l'ensemble du Darfour.
Un conflit qui dans 3 jours, le 15 avril, entrera dans sa 3e année. L'actualité en République démocratique du Congo et ses tirs entendus cette nuit à Goma, la capitale du Nord Kivu, aux mains du groupe armé M23. Des combats qui interviennent dans un contexte de recrudescence des affrontements dans plusieurs endroits des provinces du Nord, dans les territoires de Massissi et du Sud Kivu, également dans ceux de Calais et de Kabarak. Ces détonations d'hier soir à Goma se réduisent selon des sources sécuritaires sur place à une incursion d'hommes armés assimilés à des combattants Wazalendo qui appuient les FRDC face aux rebelles soutenus par le Rwanda. La FCM 23 qui accuse ainsi l'armée congolaise de violer la trêve qui semblait se mettre en place et qui a menacé de réactiver ses fronts militaires. Tout cela intervient alors que les discussions directes sous l'égide du Qatar semblent patiner selon plusieurs sources. La RDC encore ou l'UNICEF pousse ce cri d'alarme. L'Agence des Nations Unies pour l'enfance assure que les violences sexuelles visant les enfants n'ont jamais été aussi élevées. Plus de 10 000 cas de viol enregistrés pour les seuls mois de janvier et février 2025, dont 35 à 45% de ces cas qui concernaient des enfants, notamment dans l'Est, toujours en proie au conflit. Pauline Azidi nous en parle plus en profondeur ce matin. Les violences faites aux femmes dénoncées lors d'une manifestation en Afrique du Sud à Pretoria, au pied des bâtiments de la présidence. Environ 200 personnes réunies, alors que les derniers chiffres de la police sont plus qu'inquiétants. Près de 10 femmes tuées par jour, la plupart du temps par leurs partenaires. Alors face au manque d'action et de résultats des politiques publiques, les protestataires ont réclamé que soit déclaré l'état de catastrophe nationale. Claire Bargelès y était pour RFI.
Le choix du lieu est très symbolique. C'est ici, en 1956, qu'une grande marche avait rassemblé des milliers de femmes pour protester contre les lois de l'apartheid. Désormais, c'est une autre cause qui mobilise Oren Eile, 20 ans.
J'ai été victime d'une agression sexuelle et ça m'a beaucoup touchée. Maintenant, je sors toujours avec un taser. Le fait de constamment penser que quelque chose pourrait m'arriver ou de surveiller sans cesse la façon dont je m'habille, ça me donne un sentiment d'emprisonnement.
Dernier cas qui a ému l'opinion publique, le viol d'une enfant de 7 ans à l'est du pays. La liste de noms des victimes ne cesse de s'agrandir et les participantes répètent le slogan « Am I next ? Suis-je la prochaine ?» Toumi Lesala fait partie de l'organisation Women for Change, à l'origine du rassemblement.
Nous sommes en colère, fatigués, nous en avons assez. Nous appelons l'État à nous rejoindre et à entendre notre désarroi, car il faut qu'il y ait une intervention.
Le gouvernement de Cyril Ramaphosa a pourtant mis en place un plan d'action, mais les mesures peinent à se concrétiser, notamment sur le plan législatif, comme l'explique l'avocate Tamika Toumbiran.
Il y a eu le passage de loi et la mise en œuvre de politiques pour protéger les survivantes, mais sur le terrain, nous n'en voyons pas les effets. Donc il y a un problème dans l'application de ces textes et de ces politiques.
Une pétition demande désormais que l'état de catastrophe nationale soit déclaré pour que ce fléau attire plus d'attention et de ressources de la part des pouvoirs publics. Claire Bargelès, de retour de Pretoria, RFI.
RFI, l'actualité du continent. En bref, en Ouganda, pas de libération sous caution pour Kizza Besigye. La justice a refusé sa requête. L'un des principaux opposants au président, Yoweri Museveni, reste donc en prison. Décision rendue hier par un tribunal de Kampala. Kizza Besigye, accusé de trahison devant un tribunal civil. Aucune nouvelle date d'audience n'a pour l'heure été fixée. En Éthiopie, Getachew Reda, nommé hier conseiller pour l'Afrique de l'Est auprès du Premier ministre. Bonjour Vincent Dublange.
Bonjour.
Getachew Reda, qui était l'une des figures de la rébellion du TPLF opposée aux autorités fédérales dans la région du Tigré lors de la guerre entre 2020 et 2022. Et il est désormais donc l'un des ministres d'Abiy Ahmed.
Oui, ses détracteurs l'accusaient déjà d'être trop complaisant vis-à-vis du pouvoir d'Addis Abeba. Sa nomination au poste de conseiller avec rang de ministre risque d'alimenter ce soupçon. Getachew Reda est l'ancien numéro 2 du TPLF. Il représentait les rebelles tigréens lors de la signature de l'accord de paix de Pretoria fin 2022. Mais depuis, l'accord peine à être appliqué et le TPLF s'est fracturé. D'un côté, les forces de défense du Tigré, fidèles à l'ancien président de la région, Debretsion Gebremichael, et de l'autre, l'administration régionale par intérim, que dirigeait Getachew Reda. Fin mars, le pouvoir fédéral d'Addis Abeba a décidé de le remplacer. Il était contesté. Il est remplacé par un chef militaire tigréen. Beaucoup avaient vu dans ce choix un geste d'apaisement. Sauf que la nomination de Getachew Reda au gouvernement fédéral pourrait contrecarrer cet apaisement. Ce développement intervient dans un contexte plus tendu encore dans la sous-région, puisque Getachew Reda est perçu comme proche donc d'Addis Abeba. Mais le régime érythréen voisin, qui est en tension avec Addis Abeba, lui soupçonné de soutenir la faction rivale tigréenne, donc de Debretsion Gebremichael.
Merci Vincent Dublange. Un détour par les Açores dans ce journal, au festival Trémor qui marie musique et nature. Au programme, une soixantaine de groupes, pas comme les autres, parmi eux Fulu Muziki, ce collectif de Kinshasa en République démocratique du Congo qui joue avec des instruments faits de matériaux recyclés pour délivrer des messages écologiques. José Marinho est sur place pour RFI.
Fulu Muziki, littéralement la musique des poubelles en Lingala, débarque au festival Trémor avec des instruments faits maison, métal rouillé, tubes PVC, bidons éventrés. Avec eux, le plastique ne pollue pas, il groove. ce collectif de Kinshasa créé en 2014 s'affiche comme une brigade de super-héros en costumes futuristes bricolés.
En 2025, on a des costumes avec des déchets, des plaquettes électroniques.
Déboul Bokunga est un des chanteurs du groupe. Ses textes sont décrits politiques, écologiques, férocement libres. C'est punk, c'est afro-futuriste, c'est urgent.
Il faut se rebeller contre les déchets parce que ça pollue la terre, ça nous tue. Il y a des dérèglements de partout. Notre combat, vraiment, c'est ça. Il faut se réconcilier avec la nature et vivre paisiblement dans notre planète.
Foulou Mouziki prouve qu'avec trois bouts de rien et un rythme infernal, il redonne du sens au mot environnement. Aux Açores, c'est l'avenir qui vivre sous les pieds du public. José Marinho, Festival Trémor, RFI. Yes!
Foulou Mouziki qui joue ce soir pour la fin du Festival Trémor aux Açores. Et puis un mot de sport dans cette édition. On connaît les affiches des demi-finales de la CAN U17. Le Maroc à domicile affrontera la Côte d'Ivoire. Les Éléphantos se sont imposés au tir au but face au Sénégal. L'autre affiche opposera le Burkina Faso au Mali. Les jeunes aigles qualifiés face à la Tunisie également au tir au but. Je vous signale par ailleurs que deux matchs ont lieu aujourd'hui. Ouganda-Gambie et Égypte-Angola. Les vainqueurs de ces rencontres participeront à la Coupe du Monde U17. En novembre au Qatar, et puis on vous en parlait hier, la prolongation de contrat de l'Égyptien Mohamed Salah à Liverpool. J'y ai joué 8 ans et j'espère aller jusqu'à 10, a réagi l'international égyptien qui espère également remporter la Première Ligue cette année. Le journal des sports, c'est dans une heure avec Antoine Grenier.
Afrique Matin sur RFI.
Nemo en piste.
On parle de Madagascar dans ce deuxième quart d'heure. D'abord auprès des riverains touchés par le projet de première autoroute du pays entre Tana et Tamatave. Vous entendrez leur mécontentement. Puis avec le photographe Fritz Assol qui expose à Paris en ce moment, c'est notre invité ce matin. Comme tous les samedis, on zoome sur la une de Jeune Afrique. On revient sur le retour annoncé de l'ancien président Joseph Kabila. Et puis on part à la découverte des jeunes talents qui émergent grâce au festival On Marche de Marrakech. Reportage à Madagascar, donc au cœur de ce projet emblématique mais controversé voulu par le président Andry Rajoelina. Cette autoroute reliant Antananarivo, la capitale, au port de Tamatave, la deuxième ville du pays, si elle est présentée par les autorités comme un levier de développement essentiel à la grande île, les travaux mettent des milliers de familles expropriées dans une situation dramatique, alerte une centaine d'organisations de la société civile. Témoignage sur place recueilli dans le reportage de Guillaume Fabry.
Depuis son jardin, Madeleine Razavinjamiadana, 74 ans, observe inquiète le balai des bulldozers en train de remblayer les rizières en face de chez elle. Dans sa commune d'Ambouimangarouve, à une quinzaine de kilomètres au nord de la capitale, personne n'est venu l'informer du tracé de l'autoroute. Mais elle en est convaincue, ces parcelles vont être détruites car elles se trouvent à proximité immédiate du chantier.
Jusque-là, les terres nous permettaient de vivre dignement. La scolarisation des enfants en dépendait. Maintenant, nous allons être démunis comme les sans-abri qui sont en ville. Nous ne profiterons pas de cette autoroute parce que nous n'avons même pas les moyens d'aller à Tamatave. Ce projet ne profitera pas au monde rural.
À quelques kilomètres de là, d'autres paysans ont déjà perdu leurs champs et leurs rizières il y a 2 ans. Ils affirment avoir déposé des demandes de compensation, mais l'État n'est pas encore revenu vers eux. Andjanaïvo Randimbisson est père de 4 enfants.
Beaucoup de choses ont changé ici depuis qu'on a remblayé nos terres. Nous devons maintenant cultiver sur les plaines, mais elles sont beaucoup moins fertiles. Avant, nous pouvions gagner 200 000 ariars par semaine. Mais aujourd'hui, ce revenu a été divisé par 10.
Au marché local, le riz et les légumes sont devenus plus rares, entraînant une hausse des prix.
Ce projet d'autoroute a un impact sur notre santé physique et mentale. Nos enfants font face à une insécurité alimentaire grandissante.
Après avoir été exproprié, il a décidé de participer lui-même au chantier pour subvenir aux besoins de sa famille. Contre 10 000 arrières par jour, le constructeur égyptien Samkret l'emploie ponctuellement pour planter du gazon le long des talus de la future autoroute. Cette infrastructure, symbole de modernité, va stimuler le secteur industriel et créer des milliers d'emplois, promettent les autorités. Les paysans affectés seront indemnisés et accompagnés pour développer de nouvelles activités, assure le maire d'Ambouimangarouve, Cédéra Gunter Radzaounarivou, membre du parti présidentiel.
J'ai expliqué à la population que si votre terrain est concerné par l'autoroute, on peut demander au ministère de l'élevage, par exemple, de promouvoir l'élevage de poulets de chair, faire de l'aquaculture, en fait, diversifier leurs revenus. Donc, on cherche d'autres moyens pour essayer de compenser leurs pertes.
Début mars, 110 organisations de la société civile ont demandé au président de suspendre les travaux, le temps de consulter les communautés paysannes concernées. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Reportage à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. On donne la parole à un autre malgache, lui est artiste et photographe. Ritza Soul expose pour la première fois à Paris à la Fondation H. Il pratique le photojournalisme depuis un quart de siècle, mais il montre cette fois un autre aspect de son travail, plus personnel. Dans La nuit porte la lumière, c'est le nom de l'expo. Le vainqueur du prix World Press 2022 explore l'invisible, la vie vibrante, la nuit et les contradictions des malgaches. Il est l'invité d'Ouda Ibrahim.
Ritza Soul, bonjour.
Bonjour Ouda.
Vous photographiez d'abord parce que vous sentez cette nécessité de fixer les choses. C'est pour capter l'éphémère que vous cliquez sur les déclencheurs?
Comme tout photographe, notre mission c'est de capturer l'instant, d'arrêter le temps, ce temps qui défile trop vite pour nous. C'est notre avantage en tant que photographe, c'est vraiment de pouvoir capturer le temps, de le saisir pour qu'il puisse servir à mémoriser l'état du monde. C'est ça qui me plaît justement dans le fait de déclencher, d'appuyer sur le déclencheur.
Actuellement à Paris, vous exposez dans votre travail artistique, vous privilégiez la nuit. Elle est votre terrain de prédilection. Pour quelle raison ?
Ce que j'aime dans le fait de déambuler la nuit, de faire des photographies la nuit, c'est de pouvoir saisir des choses, des situations, photographier des gens qu'on ne voit pas forcément le jour. Il y a une population de noctambules qui préfèrent vivre la nuit et dormir le jour. Et c'est ça qui me plaît, c'est de pouvoir témoigner de ce qui se passe à Madagascar la nuit, sous tous ses aspects, les aspects les plus poétiques comme les aspects des fois les plus trash.
Les photos exposées démontrent une partie intime, plus personnelle de votre travail. Ces photos ont été prises en marge de vos reportages. Elles transmettent une ambiance, une certaine atmosphère. À travers ces photos, vouliez-vous raconter des histoires ?
Pour le coup, concernant l'exposition « La nuit porte la lumière », je ne voulais pas forcément raconter des histoires. C'est vrai que ma formation est liée à la photographie documentaire. Je suis un photographe documentaire, un photojournaliste. Je suis formé pour raconter des histoires, pour témoigner de ce qui se passe dans mon pays, Madagascar. Mais pour cette exposition-là, j'avais vraiment plutôt envie de juste arrêter le temps et que les gens prennent le temps justement de poser un regard poétique sur Madagascar sans qu'il n'y ait de jugement, sans a priori, sans qu'il y ait de raison de vouloir expliquer les choses.
Raconter l'intime est-il plus difficile pour vous ?
Alors, je crois que ce n'est pas tellement difficile de raconter son intimité, pour autant qu'on accepte de raconter son intimité, pour autant qu'on n'ait pas trop de pudeur. Je crois que c'est plus difficile d'être journaliste comme je le suis, de devoir témoigner avec objectivité de ce qui se passe, des problématiques sociales, culturelles et économiques de Madagascar. C'est assez compliqué, je trouve. J'adore faire ça aussi. Mais pour moi, parler de l'intimité, parler de ce que je vois, de comment je vis, et la photographie est un médium formidable pour pouvoir raconter sa vie, raconter l'intime dans sa vie personnelle.
À Paris, vous exposez la vie, la beauté, les gestes fugaces, la nuit, et beaucoup de vos photos sont en noir et blanc. Pourquoi avoir opté pour ce choix ?
En fait, j'ai commencé la photographie il y a 25 ans maintenant, et en installant un laboratoire argentique, en utilisant des films argentiques noirs et blancs, parce que c'était plus facile de pouvoir développer soi-même et tirer ses photos. Et du coup, le noir et blanc est devenu ma façon de voir le monde. En fait, finalement, c'est devenu mon sacerdoce en tant que photographe. Le noir et blanc, pour moi, encore une fois, plus poétique, je trouve. Pour moi, c'est la photographie, quoi. C'est rendre les choses abstraites.
Votre esthétique est toujours basée sur le réel, mais avec un penchant indéniable pour la poésie. Qui sont les photographes qui vous ont nourri ?
Alors, j'ai été plutôt influencé par, on va dire, des photographes documentaires, c'est vrai. Et surtout des photographes qui aiment déambuler. Je pense notamment à ce photographe français d'origine slovène qui s'appelle Claudi Sluban, qui a beaucoup photographié les Balkans, l'Europe de l'Est. Et j'aime cette façon de travailler en noir et blanc, où on s'attache à un sujet, mais sans pour autant vouloir dénoncer quelque chose. On est là juste avec son appareil photo et on capte des moments de vie. J'aime les photographes documentaires aussi, qui sont dans l'intimité, comme Antoine Dagata, voilà, qui photographie tous ses penchants, ses addictions, qui parle de sa vie, en fait. J'aime beaucoup ce genre de photographie. Ce sont ce genre de photographies qui m'ont beaucoup influencé à mes débuts de photographe, et jusqu'à maintenant, d'ailleurs.
Ritzasoul, merci.
Merci à vous.
Le photographe malgache Ritzasoul avec Ouda Ibrahim, entretien à retrouver ce matin sur nos antennes et sur RFI.fr.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Les principaux titres de ce samedi 12 avril 2025, les États-Unis et l'Iran entament à Oman des discussions sur le dossier du nucléaire iranien. L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires, dit Donald Trump. Le président américain qui menace d'une opération militaire américaine en cas d'échec de ses pourparlers. Ils mettront face à face l'émissaire américain pour le Moyen-Orient et le ministre iranien des Affaires étrangères. Ce seront les premières discussions à ce niveau entre les deux pays depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. C'était en 2018. On y revient dans le journal de 4 heures, temps universel, dans une dizaine de minutes. L'Argentine conclut un accord avec le Fonds monétaire international pour un prêt de 20 milliards de dollars. La Banque mondiale y ajoute 12 milliards. La Banque interaméricaine du développement, elle, accorde 10 milliards de dollars à l'Argentine. Tout cela devrait permettre l'assouplissement du contrôle d'échange en vigueur depuis 2019 dans le pays. Et puis au moins une quarantaine de rassemblements prévus en France aujourd'hui, rassemblements à l'appel de plusieurs syndicats et associations pour défendre la démocratie et l'état de droit. Il s'agit, selon les organisateurs, d'une réponse aux attaques contre la justice après la condamnation de plusieurs responsables du parti d'extrême droite, le Rassemblement National. À la une de Jeune Afrique cette semaine, le retour annoncé de Joseph Kabila en RDC, un retour de l'ancien président au goût de revanche selon Jeune Afrique. Catherine Potet en parle avec Romain Gras, il est journaliste en charge de la RDC et des Grands Lacs.
Bonjour Romain Gras.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Jeune Afrique en charge de la RDC et de la région des Grands Lacs. L'ancien président a lui-même annoncé son retour et aussitôt une première question se pose. Comment va-t-il rentrer en RDC? Via son fief du Katanga ou via les zones contrôlées par le M23?
Je pense qu'il y a une confusion qui est entretenue à dessein par Joseph Kabila et ses proches quand il parle de la partie orientale de la RDC pour son retour. Ça a produit l'effet escompté, hein, parce que sans préciser le point d'entrée, il laisse l'opinion se positionner. Est-ce qu'il va rentrer par son fief politique ou par les zones sous contrôle des rebelles? Je pense que chaque option a sa contrainte. Rentrer par le Katanga, ça semble difficile aujourd'hui vu ses relations avec le pouvoir actuel. Rentrer par les territoires occupés par le M23, c'est une possibilité évidente. Certains de ses proches en parlent comme d'une option très sérieuse, et du côté de la rébellion, il pourrait aussi chercher à saisir cette opportunité. Mais ça a inévitablement un coût en termes d'image pour Joseph Kabila, que le pouvoir soupçonne d'être l'un des parrains de l'Alliance Fleuve Congo. Donc reste à savoir, j'allais dire, dans quelle mesure il souhaite s'accommoder de ce coup, si c'est l'option qu'il choisit.
Alors en fait, quelles sont les ambitions de Joseph Kabila? Il revient donc sur la scène médiatique, peut-être sur la scène politique, sachant donc que le pouvoir congolais l'accuse de soutenir le M23.
C'est toujours difficile de décrypter les ambitions d'un personnage qui est resté silencieux pendant 6 ans comme lui. Après, je crois qu'il faut inscrire l'annonce de ce retour dans une séquence plus large dans laquelle Joseph Kabila essaie de se repositionner comme un acteur à même de peser ou de profiter de la crise actuelle à la fois politique et sécuritaire. En coulisses, ça fait des mois maintenant que ses proches essaient de le présenter comme une alternative, essaient d'insister sur son statut d'ancien chef d'État, de jouer la carte de l'expérience face à ce genre de crise. Kabila lui-même a restructuré son parti, rencontré des opposants, livré des interviews très critiques du pouvoir qu'il charge de la responsabilité de la crise actuelle, tout en entretenant des liens assez flous avec certains responsables de la rébellion. Donc il y a en filigrane la volonté de se présenter comme une alternative à un pouvoir que lui juge responsable de la situation actuelle, ou tout du moins d'être une partie de la solution, ce qui reste un pari assez délicat.
Dans ces conditions, Romain Gras, on imagine que Félix Tshisekedi ne voit pas le retour au pays de son prédécesseur d'un très bon œil.
Le pouvoir n'a pas officiellement communiqué sur l'annonce du retour de Joseph Kabila, mais ça fait des mois qu'il est extrêmement suspicieux à l'égard de l'ancien président, dont il essaye un peu de suivre les mouvements. Joseph Kabila a beaucoup voyagé dans la sous-région. Il y a eu une rupture assez brutale entre les deux hommes au sortir de la présidentielle, à l'issue de laquelle ils avaient noué un accord politique qui a par la suite été rompu de l'analyse de Joseph Kabila. Donc, à la suite, beaucoup de proches de Joseph Kabila sont partis en exil, sa famille a en grande partie quitté le pays, et Félix Tshisekedi l'accuse depuis des mois de vouloir préparer une insurrection en RDC, et d'être le cerveau derrière la création de l'Alliance Fleuve Congo, hein, la vitrine politique en quelque sorte du M23 que dirige Corneille Nangaa. Le pouvoir s'inquiète des relations entre les deux hommes, entre Corneille Nangaa et Joseph Kabila, qui ont été proches à une époque, et ils s'inquiètent aussi de l'influence que Joseph Kabila aurait sur l'Alliance Fleuve Congo et l'évolution, les ambitions de ce mouvement.
Merci Romain Gras. Cet article sur le retour annoncé de Joseph Kabila en RDC est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Romain Gras avec Catherine Poté. Et nous sommes à Marrakech où se referme ce samedi le festival On Marche, un événement qui offre de plus en plus de place aux jeunes générations. La preuve avec le concours Taklif. Muriel Mahalouf a assisté au festival cette semaine.
Taklif, il m'a donné une chance parce que c'est la première fois que je connais c'est quoi la dramaturgie, c'est quoi l'écriture chorégraphe, la mise en scène.
Mohamed Badou vient du hip-hop. Il fait partie des lauréats des deux dernières années qui présentent des projets créés à l'issue de résidences artistiques. Najma Haj Ben Chalabi, coordinatrice de Taklif.
Taklif, en fait, c'est tenter de créer un accompagnement artistique, de travailler le langage du corps et surtout qu'il y ait transmission. Ça veut dire que les aînés en chorégraphie, qu'ils soient marocains ou d'ailleurs, puissent transmettre et puissent aussi nourrir ce qui est en train de balbutier.
Imane El Kabli s'inspire, elle, de la haïta marocaine, ce chant populaire féminin des cheikhates qui veut dire les femmes mûres.
Dans le corps, il y a le bassin et la tête qui dirigent, qui prend la décision. Et je vois que cheikhates, c'est des femmes qui dansent avec le bassin et la tête. Et j'ai pensé que, à cause de ça, elles ont vraiment une voix forte. Donc, j'ai inspiré par ça, par la danse de bassin et la danse de la tête, parce que c'est une danse qui prend la décision.
Et c'est avec sa propre poésie qu'Imane cloue son solo touchant et puissant. Quant à Yasmine Ben Sherifa, elle vient, elle, de la danse urbaine.
J'ai commencé par le hip-hop à 10 ans et en 2017, j'ai vu la danse contemporaine pour la première fois. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment fascinée. Je me suis dit, c'est ça ce que je veux vraiment faire, pas rester toujours dans le hip-hop, mais faire une danse qui réfléchit, ou bien réfléchir bien avant de danser. Et pour moi, la danse, c'est un monde qui n'a pas de fin.
Des jeunes talents que le festival On Marche promeut, contribuant à créer ainsi une nouvelle génération de danseurs contemporains au Maroc. Muriel Mahalouf, Marrakech, RFI.
4h59 à Marrakech, une heure de plus ici à Paris. C'est ainsi que se referme cette première édition d'Afrique Matin. Merci à vous, chers auditeurs, d'être fidèles à la Radio du Monde. Vous restez avec nous pour le retour de l'actualité internationale.
Carrefour du Maghreb. Juliette Rangeval.
L'énigme du paradis perdu. Avant d'être un désert, le Sahara était un espace verdoyant où l'on chassait le lion et l'autruche, où des sociétés complexes se sont développées. Voyage dans la Tassili Niger, où les scientifiques cherchent à percer les derniers secrets du Sahara vert.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI.
L'art de raconter le monde, Jean-François Cadet.
Le saviez-vous ? Elvis Presley était un grand lecteur du best-seller de Khalil Gibran, Le Prophète. Il a même offert le livre à ses proches en l'annotant et en le soulignant. Héloïse Gay de Bélissen raconte Elvis à l'aune de cette grande passion. Titre du roman, Le King et le Prophète.
L'art de raconter le monde avec Jean-François Cadet, tout à l'heure à 18h41 sur RFI.